Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL en ce lundi dans votre magazine de partage et de réflexion. Celui qui vous ressemble et celui qui vous écoute. Nous sommes en direct et ensemble pendant une heure, 32-10 et les réseaux sociaux, vous le savez, je vous attends. J'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible au soleil et avec des journées qui rallongent, des vêtements qui raccourcissent. Et là, on ne va pas bouder notre plaisir. Oui, mais en toute sécurité, car alors que la situation sanitaire se détériore, les fêtes clandestines, soirées et carnavals sauvages se multiplient un peu partout en France. Face à des règles dont la cohérence n'est pas toujours comprise et à la privation de certaines de nos libertés depuis maintenant un an, il en est qui choisissent de se rebeller et de se rassembler sans gestes barrières, sans doute pour retrouver un peu le goût de leur vie d'avant. Et puis, dans une moindre mesure, n'est-on pas tenté en ce moment de braver les interdits kilométriques et le couvre-feu pour une vie un petit peu plus douce? Et puis les jeunes, ces jeunes qui nous écoutent et que l'on connaît, ceux qui ont l'âge des découvertes et de l'insouciance, n'est-il pas humain de leur part de vouloir transgresser pour ne pas s'éteindre à petit feu? Bref, cette désobéissance aux restrictions est-elle de l'égoïsme ou de la survie mentale, de l'irrespect ou le signe d'un mal-être plus profond? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Hélène Leuillet, bonjour.
Bonjour, Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation, Hélène. Soyez la bienvenue. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Sorbonne et vous êtes également psychanalyste et vous êtes autrice d'un ouvrage magnifique, L'éloge du retard aux éditions Albin Michel. Merci d'être là.
Merci à vous.
On va poursuivre avec ces dames. Bonjour Anne-Victoire Rousselet.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous Anne-Victoire. Vous êtes psychologue et psychothérapeute, autrice de différents ouvrages sur la schizophrénie. Gilles Verviche, bonjour.
Bonjour.
Ah bah vous êtes déjà en train de prendre des notes vous.
Oui.
Soyez le bienvenu, vous êtes philosophe, voilà, et comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi, c'est un livre qui peut servir tous les jours, puisque toutes nos journées ressemblent à des dimanches, aux éditions Flammarion. Merci à vous trois d'être là, évidemment, beaucoup de réactions, vous l'imaginez, sur nos réseaux sociaux. Alors, on reçoit par mail Marianne qui nous écrit « Moi je suis lasse, je n'en peux plus d'être la seule à faire des efforts, j'ai autour de moi des amis et des collègues qui continuent à avoir leur vie en dépit des gestes barrières et des restrictions, et moi, pauvre cloche qui respecte la loi et surtout les autres, je vis comme une nonne depuis un an. » Et puis Adrien, lui, il répond « C'est quand même fou de se transformer en délinquant pour un dîner entre amis. Je n'avais pas vu les miens depuis octobre et puis on a fait un dîner vendredi. Nous étions 8. Oui, 8 et je le referai. Nous ne faisons rien de mal. Ce monde devient dingue. » Alors, je vais vous demander à tous les trois, évidemment, une première réaction au message qui nous arrive. Hélène Leuillet, on va parler d'humanité et de liberté. En ce moment, on est privé de nos libertés, ce qui est quand même le contraire de notre développement.
Oui, alors évidemment, bien entendu, nous sommes frustrés. Hein. Comme dit Freud, la frustration, c'est notre lot en tant qu'être social. Et là, en plus, nous savons pourquoi nous sommes frustrés. C'est à cause de cette situation sanitaire. Donc, bien entendu, ça crée une lassitude. Maintenant, il faut voir aussi qu'il ne faudrait pas que pour autant on ait le sentiment d'avoir trouvé la cause de la lassitude. Enfin, de toute façon, l'interrogation sur notre frustration, elle doit rester tout à fait entière. C'est-à-dire qu'évidemment, nous sommes privés de la liberté, d'une partie de la liberté individuelle, parce qu'il ne faut pas exagérer.
On n'est pas non plus libertés, mais
complètement en dictature, contrairement à ce que disent certains. Là, il ne faut pas exagérer. Il y a des restrictions, effectivement, que la situation sanitaire nous impose et à l'égard desquelles, effectivement, on peut faire preuve d'un petit peu de tolérance.
Voilà, un petit peu d'indulgence. Anne-Victoire Rousselet, on n'est pas non plus, alors d'accord, hein, pour la frustration, elle est même, je dirais, tutorielle. La frustration, on se construit sur la frustration. Enfin, celle-ci, elle est quand même particulièrement compliquée à vivre pour nous tous.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en plus, pour les jeunes, c'est les périodes où on pose un peu les limites, où on teste les limites. Et on les aurait testées dans un autre contexte aussi. Alors, c'est vrai que là, le contexte actuel est particulièrement frustrant pour eux. Ce qui est habituel chez eux de rechercher les limites aujourd'hui, ça nous semble complètement inadapté, respectueux de la vie des autres, parce qu'il y a ce contexte particulier. Mais dans un autre contexte, il l'aurait fait également.
Les jeunes, là vous parlez des jeunes. Mais il n'y a pas que les jeunes.
Mais il n'y a pas que les jeunes. Il n'y a pas que les jeunes parce que on l'entend de tous les âges. Mmh. On l'entend de tous les âges. Cette question de, voilà, ça fait un an maintenant.
Voilà.
qu'est-ce que je fais de ma vie, mes projets, j'ai accepté de les mettre en suspens, mais combien de temps? Voilà. Et cette question de perspective qui est compliquée, en fait.
Ouais.
Je pense que si on avait dit ça fait 15 mois, c'est tenable, 15 mois. Là, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de date, en fait.
Ouais. Ça rend les choses plus compliquées. Et même les plus raisonnables font montre peut-être aujourd'hui d'un certain relâchement. Et on s'interroge là-dessus. Gilles Verviche.
Oui.
Une réaction à tout au message là que l'on reçoit.
Ben, on les comprend. Pour être professeur, effectivement, et avoir des élèves. Il y avait une fête comme ça, pas très loin de chez moi.
Une fête clandestine.
Une fête, oui,
clandestine. Il y en a eu un ce week-end,
ils étaient
encore.
Pas 200, ils étaient peut-être 10. Alors le premier réflexe, c'est celui de collabo. Les uns deviennent collabo, les autres délinquants, en fait. Hein, c'est de se dire, oh, ils font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et puis, on se dit, je pense qu'effectivement, la jeunesse, c'est important. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une jeunesse, en fait. Hein. Moi, je me souviens que c'était quand même l'âge où j'ai vécu plein de choses qui me sont restées dans l'esprit. Et se dire que des jeunes qui en ce moment entre 15 et 20 ans en fait on leur interdit de vivre ce moment important de l'existence, c'est un peu un drame quand même.
Alors les jeunes, on va en reparler hein, tout au long de cette émission, mais les plus âgés sont aussi concernés. On va accueillir Alexandre, il a 34 ans. Bonjour Alexandre.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu sur RTL Alexandre, merci d'être avec nous. Alexandre, est-ce que vous pouvez me dire, alors vous habitez à Paris, oui. Vous étiez où ce week-end?
J'étais chez mon père en Champagne-Ardenne.
D'accord. Donc, en fait, vous n'avez pas respecté les règles, en tout cas, le nombre de kilomètres, en fait, hein, qui nous est imposé en termes de déplacement ce week-end.
Non.
D'accord.
Non.
Vous avez dépassé, finalement, cette frontière qui vous est imposée. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous expliquer votre motivation, Alexandre, et ce que vous pensez du sujet de ce jour. Nous sommes en direct. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
En direct avec vous jusqu'à 15h30, en compagnie d'Hélène Leuillet, maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Sorbonne et psychanalyste, Gilles Verviche qui est philosophe, et Anne-Victoire Rousselet qui est psychologue et psychothérapeute. Et on s'intéresse aujourd'hui à cette désobéissance aux restrictions. Est-ce qu'elle est de l'égoïsme ou est-ce que c'est une question de survie mentale? Alors on ne parle pas que des fêtes clandestines ou des différents carnavals hein, qu'on a pu voir. Il y en a encore eu, hein, d'ailleurs ce week-end. On en parlera, mais néanmoins on parle surtout de nos gestes du quotidien. Est-ce qu'on n'est pas tenté de braver les interdits? On a été très raisonnable pendant tout un temps, et puis certains d'entre nous commencent aujourd'hui à se laisser davantage aller. Alexandre, vous avez donc 34 ans, vous habitez Paris, ce week-end vous êtes allé vous-même donc en Champagne-Ardenne retrouver votre famille et vous considérez que vous n'êtes pas pour autant un irresponsable.
Oui, c'est ça. Parce que depuis un an, je respecte tout. Je continue en extérieur à porter le masque. Pendant mon travail, j'ai mon masque. Même en extérieur, j'ai mon masque. Partout, je me mets du gel. Il y a pas de souci. Mais en fait, j'ai des week-ends réguliers, mais assez espacés. Mm-hmm. Et ce week-end-là, en fait, j'avais déjà réservé mes billets il y a plusieurs semaines. Mm-hmm. C'était un week-end, j'avais prévu d'aller chez mon père. Mmh. Mais le confinement parisien est tombé 15 jours avant. Bon, je me suis demandé hein, si vraiment j'allais y aller. Puis après, je me suis dit, bon, de toute façon, il n'y a pas de changement par rapport à il y a 15 jours.
La situation s'est aggravée, malgré tout.
Oui. Oui, non, mais je veux dire, moi, ça ne changeait rien concrètement dans ma vie. Je m'amuse pas à aller faire des fêtes clandestines. Je respecte tout à la lettre. Et je vais simplement, de temps en temps, en week-end chez mon père. Et ça me permet de revoir mon frère, etc.
Donc, pour vous, c'est quoi? C'est une forme de désobéissance, mais c'est une nécessité pour vous? Ça fait partie. Est-ce que vous vous sentez mieux à l'issue de ce week-end où vous avez vu vos proches? Parce que c'est de ça aussi dont on est privé aujourd'hui, de lien social. Est-ce que vous avez plus gagné à ne pas respecter les interdits kilométriques que vous n'avez perdu au final en étant désobéissant?
Oui, pour moi, en fait, pour mon équilibre, on va dire.
C'est ça.
Parce qu'en fait, autrement, j'ai l'impression de seulement aller travailler, faire les courses, manger, dormir, puis recommencer. Mmh. On est déjà privé de tout. J'adore le cinéma. Ça fait plusieurs mois que j'y ai pas mis les pieds.
Ouais.
Et voilà, ça, on n'a pas le choix. Les cinémas, les concerts, etc.
Donc vous considérez que vous n'êtes pas un délinquant aujourd'hui. C'est-à-dire que vous respectez tout, mais là vous n'avez pas respecté en connaissance de cause. Mais pour vous, ça ne fait pas de vous un délinquant ni un irresponsable.
Oui, voilà, oui.
D'accord. Reste avec nous Alexandre, évidemment. Marina nous rejoint. Bonjour Marina.
Bonjour Sally.
Comment ça va ?
Bah ma foi, on fait aller.
Bah ouais, c'est un peu ce qu'on se dit tous en ce moment. Dites-moi Marina, alors vous, je dirais que contrairement à Alexandre, hein, qui néanmoins semble être un citoyen responsable, hein, mais bon, qui a bravé les interdits ce week-end, alors vous êtes, je le dis comme ça, et sans n'y voyez absolument aucune critique, mais vous êtes une très très bonne élève quand même depuis le premier confinement.
Alors tout à fait, alors sachant que je viens d'écouter le témoignage d'Alexandre et je le comprends complètement.
Ouais.
Parce que par rapport à ce qu'il expliquait, le fait qu'il respecte tout, mais qu'il ait besoin d'aller voir son père.
Ouais.
Je ne sais pas quel âge a son père, mais c'est peut-être un besoin partagé aussi pour son papa.
Exactement.
Qui peut être isolé, ou je ne sais pas. Donc, son comportement ne semble pas dangereux.
Mmh.
Moi, ce que je dénonce, ce sont les comportements qu'on a pu voir un peu de partout, et notamment à Lyon, parce que je vis dans la banlieue lyonnaise. Je suis désolée, il y a un peu d'écho, alors du coup, je m'entends parler.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Lyon ? On va rétablir la ligne après.
Oui, d'accord. Donc, à Lyon, il y a sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, des photos d'un grand parc lyonnais, donc le parc de la Tête d'Or, pour ne pas le citer, qui circule. Donc, c'est un grand parc qui est très agréable, très arboré, avec de grands espaces de pelouse.
Ouais.
Et les personnes étaient abutinées sur ces pelouses. Qui, il y a quelques années, était interdite au public. Mais quand je dis agglutiner, c'est agglutiner. Ce ne sont pas des groupes de maximum 6 personnes.
Mmh.
Et il n'y a pas vraiment de distanciation.
Alors, on va se retrouver dans un instant. Le temps de rétablir la ligne.
Oui.
Alexandre,
merci.
Vous restez avec nous. Marina également. On va prendre Gabriel. Gabriel, il a 25 ans. Et Gabriel, il fait des soirées clandestines. Vous voyez, comme quoi la parole, là, tout le monde se lâche aujourd'hui sur cette antenne. Gabriel sera en ligne avec nous dans un instant et on pourra discuter tous ensemble. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
C'est de l'égoïsme à n'en pas douter. Aujourd'hui, on parle de notre désobéissance face aux restrictions. Croyez-vous que je suis épanouie depuis un an à être privée de mes libertés, vie sociale et plaisir, nous écrit Pauline par mail. Mais je pense d'abord au collectif, contrairement à ces énergumènes individualistes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui ne viennent pas pleurer s'ils contaminent un proche qui n'aura pas de place en réa. Et puis Marine nous écrit « Moi j'ai tenu jusqu'en février. Je disais non à mes amis qui chaque semaine organisent des soirées ou dîners, mais là j'avoue, eh bien je craque. Je reprends les dîners le week-end. Nous n'avons aucune perspective. Les pouvoirs publics sont dépassés avec leurs restrictions sans queue ni tête. Donc si on ne prend pas un tout petit peu soin de notre santé mentale, nous allons tous devenir fous. » Alexandre est en ligne avec nous. Alexandre, il a pris le train ce week-end. Il a bravé les interdits kilométriques autour de Paris pour aller voir son père en Champagne-Ardenne et il estime qu'il n'est pas irresponsable pour autant. Et Marina, qui elle respecte tout à la règle avec sa famille depuis plus d'un an, comprend les besoins d'Alexandre et comprend les besoins de son papa. On va déjà faire une petite pause, si vous le voulez bien, et demander à nos invités une réaction. Gilles Verviche.
Oui, je voulais juste, sur la notion de responsable ou pas, parce que vous avez posé la question, Flavie, est-ce que vous considérez comme un irresponsable ou pas du fait d'obéir ou pas à la règle ou à la loi ? La question, c'est de savoir si on est plus ou moins responsable selon qu'on obéit, parce que si la règle elle-même,
bien sûr,
ils sont assez confuses en ce moment, il faut tout dire, enfin, il faut le dire, hein, tous les jeudis, on ne sait pas trop. Voilà, la responsabilité, ça me paraît être quand même plutôt la capacité soi-même à distinguer le bien du mal ou le raisonnable du raisonnable. Alors peut-être qu'effectivement dans cette zone de tolérance entre un apéro de 4-6 personnes qu'on reçoit chez soi en respectant des gestes barrières et puis une bamboche, puisque le mot est devenu à la bonne avec le Covid, à 150, il y a peut-être une marge. C'est pas parce que, à l'inverse, c'est pas parce qu'on obéit à une loi qu'on est quelqu'un de responsable. Si la loi elle-même est irresponsable, on n'est pas forcément responsable. Au contraire, l'idée c'est quand même de savoir pourquoi, comment on obéit à une règle, de se considérer comme un individu qui a sa conscience à lui. Donc, on est responsable si on réfléchit à pourquoi on obéit ou pas.
Hélène Le Yen. Oui, obéir et désobéir, c'est pas des valeurs en soi. On est toujours au sommet de se demander à quoi on obéit, à quoi on désobéit. C'est
oui,
pas
si bien. Les règles sont absurdes.
Ou incompréhensibles. Il y a plus que les règles. Il y a aussi se demander. Alexandre, c'était très bien. Moi, je crois qu'on a tous effectivement un devoir de pas trop se déprimer, de pas trop se tirer vers le bas, en trop se plaignant aussi. Donc, il faut faire attention aussi. Il faut pas être trop rigide. Moi, je crois que c'est vrai. Il faut pas être trop rigide. Mais il faut aussi analyser la situation, comme il dit très bien. Il fait par ailleurs, attention, c'est vrai qu'il y a un virus qui, en plus, est plus dangereux que l'année dernière. C'est plus grave. Donc, il faut qu'on en tienne compte aussi. Maintenant, et il faut aussi essayer de prendre ce que cette situation peut paradoxalement nous apporter. Vous voyez justement qu'elle nous fait réfléchir et peut-être pas toujours regarder ce que fait le voisin, parce qu'on a toujours tendance à en vouloir à celui qui s'accorde ce que soi-même on se refuse. Et on ne fait pas attention
ça crée des
à sa
divisions
propre
aujourd'hui.
Vie non plus dans ces cas-là.
Voilà. Et ouais. On a une responsabilité, c'est ce que vous nous expliquez aussi. Et là, je vais demander évidemment à Anne-Victoire Rousselet, qui est psychologue et psychothérapeute, de réagir. On a parfois une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes d'un point de vue mental et vis-à-vis de nos proches qui nous demandent de braver certains interdits en restant le plus raisonnable possible. C'est ça aussi, Anne-Victoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le collectif et puis il y a le perso.
Évidemment, la question de la règle et du curseur, mais aussi des ressources qu'on a pour faire face à la situation. Et là, en effet, je prends plutôt la casquette de psychologue et de psychothérapeute, le curseur, où est-ce qu'on le positionne en fonction de nous-mêmes, ce qu'on est capable de donner, de supporter. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer que les gens qui transgressent les règles, les interdits, aussi peu clairs peuvent-ils être, sont aussi dans quelque chose où ils cherchent à survivre. C'est-à-dire à survivre, il n'y a pas que la survie physique, hein. Il ne s'agit pas d'avoir des pâtes et du pain au chocolat, il s'agit aussi d'avoir un bien-être mental qui nous permet
De
faire
davantage.
Nos études, nos activités, rester intellectuellement stimulé, etc. Et donc ça, le curseur est personnel et individuel, et fonction de nos ressources. Et là où c'est compliqué, où ça déclenche quand même beaucoup d'agressivité et de violence, c'est qu'on n'a pas tous le même curseur. Mmh. Et donc, c'est compliqué d'aller juger, comme disait la collègue à l'instant, c'est compliqué d'aller juger ce qui se passe pour l'autre parce qu'il n'a pas les mêmes ressources, il n'a pas la même éducation, il n'a pas le même environnement. Si on parle de maison, d'appartement parisien, etc., c'est quand même pas du tout le même contexte et ni les mêmes ressources. Donc, ça me paraît être important, en effet, de mettre l'accent là-dessus sur quelque chose qui est un repère individuel et faire des règles générales, c'est compliqué dans ce contexte.
Marina, je vais vous garder car dans un instant, je vais vous présenter Gabriel. Une dernière chose, Alexandre, certains expliquent, je vous ai lu d'ailleurs un message de Marine qui dit « Moi, j'ai tenu jusqu'en février et là, je sens que je glisse et je craque dans la mesure du raisonnable avec des dîners le week-end. » Est-ce que vous avez le sentiment, Alexandre, d'avoir fait un pas de plus vers une transgression qui va se généraliser dans votre comportement ou est-ce que vous allez maintenir une certaine rigueur dans le respect des restrictions ?
Je vais rester... En fait, je continuerai à partir en week-end quand je pourrai,
ouais.
Mais je pense que je ne ferai pas plus. Hein.
D'accord. C'est-à-dire
c'est juste un besoin, en fait, un besoin de me retrouver en famille de temps en temps, ouais. Parce qu'en fait, je vis effectivement dans Paris, dans un appartement, donc c'est pas du tout le même contexte.
Bien sûr.
Puis je suis le seul de ma famille à habiter à Paris. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est moi qui prends le train pour aller les voir.
Est-ce que vous avez fait un test avant de partir ?
Non, mais je vais en faire un avant de... Je reprends le travail. Et je sais que mon père en a fait un, il était négatif.
Depuis votre départ ?
Oui.
D'accord, ok. Mais vous n'êtes pas allé donc chez votre père en étant parfaitement assuré que vous étiez négatif ?
Non, non, effectivement.
D'accord. Je réfléchis.
Non, je m'en doute. Hein.
Et je me demande ce que. Non, parce que moi, on en a régulièrement quand même des cotons-tiges dans le nez en ce moment. Et donc, c'est vrai qu'on en use et on en abuse. Et puis parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On est toujours un peu paumé. Pardon, hein, Alexandre. Hein. Oui.
Oui.
Ça n'était pas un jugement, mais c'était histoire de comprendre.
Non, il n'y a pas de souci. Hein.
D'accord. Bon, Alexandre, je vous remercie d'avoir témoigné sur cette antenne. Sachez que vous n'êtes pas le seul, hein, que beaucoup de messages vont dans ce sens, effectivement. C'est une des petits moments de liberté que l'on grappille pour une certaine survie psychique. Merci beaucoup, Alexandre. Marina, vous voulez bien rester avec nous ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Dans un instant, je vais vous présenter Gabriel. Je le remercie pour sa patience. Mais Gabriel, il a 25 ans. Il est étudiant en com. Et lui, il fait des soirées clandestines. Et puis, voilà, ils sont pas 6. Hein. Ils sont un peu plus nombreux. Il va nous expliquer ça dans un instant. Voilà, les besoins des jeunes en ce moment, ce sera dans un instant sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Eh bien, dites donc, vous êtes très nombreux à nous laisser des messages aujourd'hui. On s'intéresse à la désobéissance en ce moment, aux restrictions. Est-ce que c'est de l'égoïsme ou une question de survie mentale, de l'irrespect ou le signe d'un mal-être plus profond? Alors évidemment, on va du petit geste qui, pour certains, n'a pas de conséquences. Braver le couvre-feu, peut-être. Braver les interdits kilométriques. Et puis, jusqu'aux fêtes clandestines dont on va parler dans un instant. Tiens, et même tout de suite avec Gabrielle. Marina, vous êtes toujours avec nous?
Pardon?
Vous êtes toujours avec nous, Marina?
Oui, oui, je suis toujours là.
Vous avez des enfants?
Oui, j'ai une fille, oui.
Quel âge a-t-elle?
Elle a 13 ans.
D'accord, ok. Elle fait attention, votre fille? Oui, comme toute la famille.
Avec nous, oui. Après, bah oui. Au collège, elle respecte les règles du collège, mais bon, je ne suis pas là pour constater.
Et puis, c'est compliqué de toute façon, en plus, en ce moment.
On est d'accord.
Dans les établissements scolaires. Bonjour, Gabrielle.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour, Gabrielle. Vous avez 25 ans, vous vivez dans les Yvelines, vous êtes étudiant en communication. Est-ce que vous avez fait la fête ce week-end?
Évidemment. Je vais vous le dire, sans le cacher, bien sûr que j'ai fait la fête ce week-end, comme beaucoup de week-ends, pas tous, mais oui, ce week-end.
Ça fait combien de temps que vous organisez ces fêtes clandestines?
J'organise pas forcément, oui. Je participe beaucoup également, mais j'en organise certaines et ça fait environ un an depuis mai. Au début non, vous savez, il y avait une certaine ambiance anxiogène qui fait que tout le monde est vraiment peur et au bout d'un moment on sent quelque chose qui nous échappe et forcément moi et d'autres amis on s'est rendu compte qu'on pouvait pas se priver de ça éternellement.
Vous êtes combien lors de ces fêtes, Gabriel?
Ça dépend, ça peut aller d'une quinzaine à une quarantaine parfois.
Où est-ce que vous vous retrouvez?
Écoutez, c'est tout simplement soit chez moi, parce que personnellement j'habite seul dans un appartement, donc soit chez moi, soit chez d'autres amis, parfois en extérieur, peut-être en extérieur dans la forêt de temps en temps.
Et vous avez peut-être un appartement vachement plus grand que le mien, mais moi, 50 personnes chez moi, ça, on est un peu serré, vous voyez, on est très proches les uns des autres quand même.
Je vous rassure, chez moi, ça ne peut pas accueillir plus de 15 personnes. Quand on se retrouve à plus nombreux que ça, c'est soit chez une personne qui a une maison plus grande, soit c'est carrément à l'extérieur.
Vous portez le masque, vous faites attention lors de ces soirées? Vous
pas
respectez
forcément.
Les gestes barrières?
Non.
C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je débarque à votre fête, Gabrielle, donc j'enlève mon masque, je vous fais la bise, salut, Gab, Flavie, et on boit des coups.
C'est un peu comme ça. D'accord. La bise, peut-être pas, mais on se prive pas d'être proche pour parler, pour échanger, etc. Mais on va pas jusqu'à faire la bise.
D'accord.
Mais on est assez proche et on ne garde pas un mètre de distance à chaque fois, ça c'est sûr.
D'accord. On peut danser ensemble, on peut s'embrasser, et on peut boire des coups, et on peut partager des shots d'alcool.
Oui, ça arrive.
D'accord.
On essaye d'avoir chacun notre verre quand même. Sinon tout le reste, oui.
Pardonnez-moi, vos parents le savent ou pas? Enfin, vous allez me dire, j'ai 25 ans, moi, mon fils de 25 ans, il aurait tendance à me dire, écoute, ton avis. Mais votre entourage familial le sait ou c'est quelque chose
bien
que
sûr,
vous
oui,
ne partagez?
Je leur cache pas. C'est pas une honte que j'ai par rapport à eux et ils savent très bien que malgré que je fasse tout ça, dès que je vais me rendre les voir, il y aura forcément un test qui aura été fait au préalable. Je serais sûr de pas avoir vu d'autres gens une semaine à l'avance.
Gérald Darmanin, donc, qui est ministre de l'Intérieur, a affirmé jeudi dernier que les fêtes clandestines, les fêtes sauvages, sont la première difficulté en matière de non-respect du couvre-feu et des règles sanitaires, avec plus de 300 événements de ce type recensés par ses services depuis le 15 janvier seulement. Hein, le 15 janvier, donc ça fait quoi, 2 mois. Qu'est-ce que vous avez à dire, Gabriel? Est-ce que vous avez le sentiment quand même que vous prenez de très gros risques, et pour vous et pour votre entourage?
Alors, pour moi, c'est bien possible. Mais bon, tant que ça ne concerne que moi, je pense que c'est assez personnel et que je n'ai pas vraiment à le justifier. Après, par rapport à ma famille, comme je vous l'ai dit, j'effectue un test systématiquement lorsque je me rends les voir. C'est pareil quand je rencontre des amis en extérieur, hors des soirées, etc. Donc, je ne pense pas avoir faire courir le risque à d'autres personnes que moi-même. Si ce n'est personne des soirées, mais elles savent très bien dans quoi elles s'engagent quand elles viennent à ces soirées.
Comment ça se passe pour vos études en ce moment? Vous n'êtes pas en présentiel?
Non, je n'ai aucun cours en présentiel. Je suis totalement en distanciel. Donc voilà, je passe une journée à la maison.
Et le quotidien, par exemple, vous êtes confiné, Gabriel, en dehors de ces fêtes que vous pouvez, auxquelles vous pouvez participer le week-end. Est-ce que la semaine, on peut dire que vous avez une vie confinée ou en tout cas telle qu'on vous la demande aujourd'hui, avec des règles que vous respectez? Est-ce que ces fêtes sont
bien
des
sûr.
Exceptions dans votre vie?
Des exceptions. sont la seule chose qui me permettent de vraiment sortir, d'échanger, faire des choses.
Qu'est-ce que ça vous apporte?
Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte... Vous savez, à 25 ans, j'ai besoin d'échanger, de rencontrer des gens. Ça permet de se construire, avant tout. C'est de décompresser également du quotidien qui est assez difficile. Parce que, je vous l'ai dit, je suis toute la journée chez moi à suivre mes cours en distanciel. J'ai très peu d'échanges, je ne parle pas avec beaucoup de monde. Donc c'est assez compliqué. Donc ça aide beaucoup dans tout ça, au final, de faire des soirées, de rencontrer des gens.
Si vous ne faisiez pas ces soirées, qu'est-ce qui se passerait? Comment iriez-vous?
Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas tenté le diable.
Quand, pour vous, c'est une nécessité morale, psychique, à un moment donné, ça vous permet d'être en lien, ça vous permet d'oublier, ça vous permet d'alléger, finalement.
Exactement, oui, c'est un peu ça, au final. Parce qu'on dit, voilà, faire la fête, bah écoutez, voilà, ces jeunes-là, ils font la fête, ils boivent de l'alcool, ils s'éclatent, mais ça va bien au-delà de ça, au final.
Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, Gabriel? Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, bon, alors attendez, là, tous ces gamins qui nous font, je me mets à leur place, hein, tous ces gamins qui nous font des fêtes clandestines, qui après vont tous nous contaminer, alors qu'on demande à tout le monde un effort collectif, surtout en ce moment, dans une période où les choses se dégradent, on a encore des jeunes qui vont faire la bamboche, comme le disait si bien Gilles Verviche il y a un instant. C'est parfaitement irresponsable. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur expliquer ce qui vous motive?
Pour leur expliquer un peu, en fait, ça apporte vraiment sur le plan émotionnel, psychologique. Ça apporte de l'échange, ça apporte du contact. C'est quelque chose que moi qui vis tout seul, personnellement, et je pense que c'est le même cas de figure pour pas mal de jeunes, en fait, ça nous apporte énormément. On a besoin, je pense, à notre âge, d'échanger, de faire des rencontres,
d'être en lien.
Aujourd'hui, d'être en lien.
C'est pas qu'une question de se bourrer la gueule, pardon de le dire comme ça, mais c'est pour vous, c'est beaucoup plus, c'est davantage, hein, vous en avez besoin.
Bien sûr.
Bon, on va se retrouver. Marina, merci pour votre patience. Je vais vous demander de réagir parce que vous êtes mère de famille, évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle je vous garde avec moi. On se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL.
Ce qui veut dire que même ce sale gosse de Gabriel va recevoir des chocolats. Est-ce qu'il les mérite vraiment, Gabriel? Vous êtes en ligne avec nous?
Vous
aimez le chocolat au moins?
J'aime beaucoup, oui.
Bon, très bien. Bon, en tout cas, moi, je voudrais vous remercier parce qu'on a une conversation qui est très éclairante, Gabriel. Et là où on pourrait avoir envie, et encore une fois, je mets d'énormes guillemets, mais vous donner des claques, comme un sale gosse que vous êtes de 25 ans qui avait envie de profiter de la vie, on vous écoute et on se met aussi à votre place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous participez à des soirées avec vos amis, plusieurs fois par mois, en tout cas les week-ends, le reste du temps, vous êtes en présentiel, en cours, vous êtes étudiant en communication, vous restez enfermé chez vous, et donc on a le sentiment que ces soirées vous permettent à un moment donné une soupape de sécurité psychique, à défaut d'être une sécurité sanitaire. Dernière question avant d'écouter Marina, justement, et on va lui demander son point de vue. Gabriel, est-ce que vous faites des tests tous avant vos soirées, vos bamboches?
Non, pas du tout.
C'est dommage. Pourquoi? Ça pourrait, parce que vous,
niveau organisation, c'est très compliqué. Ça pourrait freiner pas mal de personnes. Et ouais. En fait, on veut vraiment se sortir tout ça de la tête. Et en fait, on rappelle aux gens.
Pour vous, ce sont des soirées sans Covid, quoi.
Donc, des soirées, voilà, on n'y pense pas trop.
Voilà, donc qui dit soirée sans Covid, dit soirée sans masque et dit soirée avec prise de risque du haut de vos 25 ans. Mais vous semblez en être tous conscients. Et il faut préciser que lorsque vous voyez vos proches et tout, vous faites des tests ensuite. Et Gabriel, j'imagine que si vous êtes positif, vous ne bougerez pas de chez vous et vous respecterez les contraintes sanitaires. Marina, vous êtes maman, vous avez 42 ans et vous êtes une très très bonne élève avec votre famille puisque vous suivez strictement les règles sanitaires depuis un an. Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant Gabriel?
Alors, mes sentiments sont partagés.
Oui, forcément.
En écoutant Gabriel, on a affaire à un jeune intelligent et raisonnable malgré tout.
C'est ça.
Alors, je ne cautionne absolument pas le fait qu'il fasse des fêtes à 30 ou 40 personnes, ce qui au final n'est pas grand-chose par rapport aux 250 ou au carnaval qu'on a pu voir à Marseille. Mais je comprends toutefois son besoin de vivre et de vivre sa jeunesse notamment. De vivre sa vie d'étudiant également, parce que ben, ce ne sera qu'une fois dans sa vie. Donc, voilà, autant, ils ont besoin d'en profiter.
Et une vie d'étudiant en ce moment, Marina, qui est quand même épouvantable.
Nous, voilà, on, sait, on est
on
d'accord.
On fait du télétravail et les étudiants chez eux, c'est un enfer sur Terre.
Je suis entièrement d'accord.
Ouais. C'est
compliqué parce qu'il est responsable, parce qu'il a quand même la démarche de se tester avant d'aller voir sa famille, ses parents, qui j'imagine frôlent la cinquantaine ou ont passé les 50 ans et qui du coup rentrent tout doucement dans une population plus à risque. En même temps, la question que je voudrais poser à Gabriel, c'est si son test s'avérait positif à l'issue d'une de ces fêtes, il ferait quoi? Est-ce que par là, donc après s'être isolé le temps d'être guéri, entre guillemets, est-ce qu'ensuite il y retournera à ces fêtes ou alors il les mettra un peu, entre guillemets, de plomb dans la tête?
Gabriel, on va lui demander tout de suite. Gabriel.
Tout d'abord, écoutez, j'ai eu la chance en fait de ne pas tomber malade des suites de ces soirées depuis le début du Covid. Donc, je vais vous donner une réponse purement théorique, mais je pense que ça me refroidirait le temps de la maladie, etc. Mais enfin, honnêtement, une fois que tout serait passé, je pense pas que ça freinerait pour engager de nouvelles soirées et continuer le train.
Marina.
Alors, moi j'ai la chance de n'avoir personne autour de moi qui n'a attrapé la Covid, donc voilà, je ne sais pas précisément ce que c'est, mais j'entends comme tout le monde des témoignages, et, que ce soit à la radio, à la télé. J'imagine que si on attrape une forme grave de la maladie, qu'on se retrouve en réa, sous assistance respiratoire, ça doit quand même calmer, enfin, je suppose.
Après, soit ou ses proches.
Oui, voilà, soit ou ses proches, voilà oui, tout
c'est
à fait, ouais, bien sûr.
C'est parce qu'à 25 ans, je ne suis pas persuadée qu'on y pense, Marina, c'est ça en fait.
Non,
on y pense plus à nos âges, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais on nous dit tellement qu'avec les variants, il y a de plus en plus de jeunes qui
bien
se retrouvent
sûr.
Dans des situations critiques, que du coup, c'est ce qui fait peur.
Bien sûr.
Parce que lors du premier, voire du deuxième confinement, on entendait que c'était tout, alors, c'est absolument pas péjoratif, mais des vieux, hein, comme on dit, des personnes d'un âge bien avancé. On leur souhaite pas de mourir dans ces conditions, mais on se disait, même à 40 ans, sans comorbidité, ce serait une bonne grippe, quoi. Puis voilà, ça ira pas au-delà.
Maintenant, on ne tient plus du tout le même discours, effectivement, les choses ont évolué. Et par ailleurs, des comportements n'évoluent pas toujours dans le bon sens. Merci beaucoup, Marina. Je vais devoir dire au revoir, mais je vous remercie pour votre patience. C'était très intéressant de parler avec vous.
Mais j'ai beaucoup apprécié aussi.
Voilà, donc je vous embrasse, parce qu'on peut le faire à la radio. Merci. Vous allez recevoir des chocolats à l'occasion des fêtes de Pâques de la part d'RTL. Gabriel, vous restez avec nous, parce que dans un instant, Anne-Victoire Rousselet, Hélène Leuillet et Gilles Verviche vont échanger avec vous. À tout de suite, Gabriel.
Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Alors, Gabriel, votre témoignage, évidemment, est devenu central dans notre émission. Peut-être qu'on vous proposera l'émission à l'origine, hein, qui était effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, quand on désobéit aux restrictions, les petites désobéissances, on fait montre d'égoïsme? On vous proposera peut-être le sujet, on vous entendra tous. Mais Gabriel, là, on peut dire que vous êtes un peu là. Vous êtes un peu la mascotte de cette émission, puisque vous organisez, enfin, vous participez à des soirées clandestines. Anne-Victoire Rousselet, vous partagez le point de vue de Marina il y a un instant, justement, qui nous disait, on est nuancé quand on écoute Gabriel, on ne peut que le comprendre, même si effectivement on le déplore.
Bien sûr, je comprends Gabriel, je comprends Marina aussi, et je pense que ce qui est important, c'est de se positionner par rapport, encore une fois, à son curseur, là où on en est dans sa vie. Il n'a pas les mêmes besoins que Marina, et c'est important de respecter ça. Après, je pense que la complexité de la chose, c'est qu'on nous donne beaucoup de latitude. Et on ne sait pas forcément toujours comment bien l'exploiter. Donc Gabriel, lui, fait des soirées, d'autres sont plus rigides, d'autres sont plus contenus. C'est difficile de mettre le curseur. Et je pense que ce qui est important, c'est cette bienveillance et l'absence de jugement par rapport aux autres. Mais je comprends tout à fait.
Alors, c'est toute la difficulté. Pardonnez-moi, Anne-Victoire, mais Gilles Verviche, vous me parliez il y a un instant de jalousie. En fait, ouais. c'est quand même la problématique, quoi.
Bah, la question, c'est de savoir si on en veut, parce qu'on peut éventuellement en vouloir à ceux qui font des grosses fêtes quand soi-même, La question, c'est de savoir pourquoi on en veut. Est-ce qu'ils font quelque chose de mal ou ils font simplement ce que tout le monde voudrait faire? C'est un peu la situation quand on voit une voiture prendre la bande d'arrêt d'urgence, tu vois. Toi, t'es dans les bouchons, tu respectes le bouchon et du coup, l'autre le prend. Alors,
Qu'est-ce que c'est irritant,
et tu lui
ça
en veux. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on lui en veut d'un point de vue moral? T'as deux réponses. Nietzsche va te dire, tu lui en veux parce qu'en fait, il fait ce que t'oses pas faire et que t'aimerais bien faire. Tu vois, il dit que finalement, le bon et le méchant, c'est que le méchant, c'est celui qui ose faire ce que l'autre ose pas faire. Et puis, t'as la réponse de Kant qui dit non, c'est absolument mal de le faire parce qu'il faut agir tel que je voudrais que tout le monde agisse à peu près, ouais, et ou en me demandant si tout le monde faisait la même chose. Voilà.
Voilà,
et il
ça
faut se dire, et Kant définit l'impératif catégorique, je vais pas le définir, mais ça consiste à dire que ce qui est mal, c'est ce que je peux pas faire si tout le monde le fait. Et si tout le monde commence à prendre la bande d'arrêt d'urgence, plus personne ne peut la prendre.
Donc, exactement,
pour le faire, tu comptes sur le fait que les autres soient respectueux de règles et tu demandes une exception pour toi, et ça, c'est mal pour Kant.
Hélène Leuillet.
En même temps, je trouve que Gabriel est très conscient dans une certaine mesure, et moi aussi j'ai beaucoup apprécié son témoignage et je
il
le
nous
trouve
écoute, hein,
tout à fait correspondant à ce que aux jeunes que je connais la plupart, c'est-à-dire pas du tout irresponsables, sachant quels risques ils prennent, et conscient en ce sens que la désobéissance n'est pas habillée par des arguments comme quoi il n'y aurait pas de virus, enfin les antivax,
le complotisme,
les complotistes, etc.
Bolsonaro et
c'est-à-dire qu'on a quelqu'un là qui sait à peu près où il en est, et je suis tout à fait d'accord, ils sont tout à fait enfermés toute la semaine et ils ont besoin absolument de contact social. Maintenant, des risques, on en prend tous, et il est vrai qu'il y a aussi tout à fait un discours idéologique dans notre société. On peut prendre des risques en allant au travail, on peut prendre des risques en se déplaçant, on peut prendre des risques pour les bonnes valeurs, hein, du travail, du citoyen raisonnable, et les jeunes ne peuvent pas prendre de risques équivalents. Moi, ils prennent des risques, et ils sont raisonnables parce qu'ils font attention à ne pas contaminer. De toute façon, ils sont enfermés après une semaine devant leur Zoom, donc ils ne risquent pas de contaminer autrui. Je veux dire, il a une prise en compte de l'altérité d'autrui, ce qui est, après tout, le réquisite de base.
Alors, Gabriel, merci beaucoup d'avoir témoigné de la sorte. Vous nous avez donné une idée, on va faire une émission spéciale sur les jeunes, dans cette période.
Super.
Alors, pas sur Gabriel, faut pas charrier non
Gabriel.
Plus.
Gabriel.
Non, pas spécialement sur Gabriel, mais notamment sur les jeunes, parce que ce que vous vivez tous en ce moment, et en plus quand vous êtes étudiants, et certains d'entre vous rament financièrement, c'est extrêmement difficile. Donc, la jeunesse au temps du Covid, on fera une émission spéciale à ce sujet. Gabriel, merci beaucoup.
Si j'ai pu faire avancer les choses dans ce sens, c'est génial d'avoir été.
Bon,
écouté.
Et faites gaffe, hein.
Je vous remercie.
Pas de blague, hein.
Oui,
d'accord.
Bien sûr, bien sûr.
Ok, on compte sur vous. Merci beaucoup, Gabriel. Vous recevrez vos chocolats de la part de Jeff de Bruges et d'RTL. Salut, Gabriel. Anne-Victoire Rousselet, j'espère que vous serez avec nous lors de cette émission spéciale sur la jeunesse. Hein.
Avec joie.
On vous tiendra au courant. Merci à vous. En attendant, on peut lire votre ouvrage sur la schizophrénie, Mieux vivre avec la schizophrénie chez Dunod. Merci beaucoup, Anne-Victoire Rousselet. Hélène Leuillet, L'éloge du retard. J'adore. Aux éditions Albin Michel. Gilles Verviche, Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi. Et c'est tous les jours dimanche après-midi aux éditions Flammarion. Merci à vous.
Merci.
C'était très intéressant. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous demain dès 14h30 en direct sur RTL. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous et faites attention.